Vous écoutez
RMC.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le cessez-le-feu fragile ce matin entre Israël et le Liban qui évoque des violations de l'accord entré en vigueur hier soir. Portant sur une trêve de 10 jours à Beyrouth, les habitants hésitent entre soulagement et prudence. 723 millions d'euros, c'est le montant de la fraude à l'assurance maladie détectée et stoppée l'an dernier en hausse de 15% par rapport à 2024. Et historique, l'exploit de Strasbourg qui s'offre une première demi-finale européenne en Conference League, tombeur de Mayence 4-0.
Les armes étaient censées se taire hier soir à 23h.
Un cessez-le-feu annoncé par Donald Trump entre le Liban et Israël, mais depuis des tirs ont été entendus. Le Liban évoque une violation de la trêve. Beyrouth dénombre plusieurs actes d'agression. En représailles, le Hezbollah libanais dit avoir bombardé des soldats israéliens. Si l'annonce a été saluée dans les rues de Beyrouth, ces Libanais, joints par Célestin Bougère pour RMC, préfèrent rester prudents.
À l'annonce du cessez-le-feu, Adriana, une habitante de Beyrouth, souffle un peu tellement les frappes sont nombreuses depuis le début du conflit, surtout dans le sud du Liban.
Un cessez-le-feu, c'est toujours une bonne nouvelle. Moi, je suis du sud de Tyr. Le sud, c'est chez moi. Donc, il y a une forme de déchirement constant.
Mais elle ne veut pas crier victoire trop vite.
On a déjà vécu ce genre de situation. Des accords signés, mais des frappes qui continuent malgré tout. Alors oui, il y a un léger soulagement, parce que toute pause dans la violence est précieuse. Mais ce n'est pas un soulagement complet.
L'armée libanaise a d'ailleurs alerté les habitants du sud du pays. Méfiance aux centaines de milliers de réfugiés qui voudraient retourner sur place. Ils pourraient trouver des munitions non explosées. Même prudence pour Sandra, qui réside dans le quartier chrétien de Beyrouth. Pour elle, tant que le Hezbollah n'est pas désarmé, il n'y aura pas de paix.
Le Hezbollah a déclaré lui-même la guerre et il a entraîné tout le pays dans une guerre que nous ne voulions pas. Nous payons tous les conséquences de sa guerre. Nous ne voulons pas d'une trêve ni d'un cessez-le-feu. Nous voulons d'une paix.
Alors que les frappes israéliennes ont continué toute la journée hier, elle espère que les autorités libanaises prendront des mesures concrètes pour enfin réduire l'influence du Hezbollah dans le pays.
Et dans le même temps, l'Iran et les États-Unis se rapprochent d'un accord. C'est ce que dit Donald Trump. Selon le président américain, Téhéran a accepté de céder son uranium enrichi et renonce au nucléaire pour les 20 prochaines années. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron va recevoir le premier ministre britannique aujourd'hui afin de co-présider une visioconférence sur la mission défensive visant à restaurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz avec une quarantaine de pays prêts à y participer. L'espoir donc fragile ce matin d'une paix au Moyen-Orient après plus d'un mois et demi de guerre qui aura fait monter les prix du carburant au point que certains Français revoient leur plan pour les vacances de printemps. Elle se termine ce soir pour la zone A. Elle débute pour la zone C avec pour beaucoup un budget serré, partir moins longtemps, moins loin, obligeant, Rachel Sadoudine, les professionnels du tourisme à s'adapter.
Les réservations sont en baisse de près de 2% par rapport à la même période l'an dernier, selon le site internet de location PAP. Sa présidente Corinne Joly constate un phénomène directement lié à la hausse des prix des carburants, l'annulation de dernière minute.
Annuler pour essayer de choisir une destination qui rentre plus dans leur budget, se rabattre sur une destination avec un budget transport plus acceptable.
Et ça profite à la Bretagne, plus 10% de réservations, à la Normandie, plus 14%. À l'inverse, le sud du pays en pâtit fortement. Jean-François Pouget, directeur général d'Aérotourisme.
On anticipe sur les vacances de printemps une baisse dans la fréquentation de l'hôtellerie classique, du locatif, et je pense aux gîtes et à la location saisonnière type Airbnb, parce que nous sommes, nous, une destination où on peut dire qu'à plus de 90% des touristes viennent en voiture.
Ils misent donc sur une clientèle plus locale, avec notamment des touristes venus d'Espagne où l'essence est moins chère. Jean-François Pouget est d'ajouter, avec un plein, ils peuvent faire l'aller-retour jusqu'à nous.
Et sur la route, aujourd'hui il y aura du monde, bison futé, hisse le drapeau orange en Ile-de-France et en région Auvergne-Rhône-Alpes. L'explosion de la fraude à l'assurance maladie en hausse de 15%, je vous le disais, en 2025 par rapport à l'année précédente, chiffré à 723 millions d'euros, montant record détecté et stoppé. On est loin toutefois des estimations fixées à plus de 2 milliards d'euros. Une fraude qui s'organise dans trois quarts des cas. Elle est le fait de professionnels de santé. C'est le cas de ces centres de soins censés regrouper des médecins, des infirmiers ou des kinés et qui sont parfois, Bérangère Bocquillon, 100% fictifs.
Oui, jusqu'à aujourd'hui, le centre de santé qui fraudait faisait de la surfacturation et des consultations fictives. Désormais, les escrocs sont capables de créer des centres entièrement fictifs à partir du rachat de centres de santé en difficulté. Ils intègrent le temps de réaction de l'assurance maladie comme un braqueur de banque qui sait combien de temps il faut à la police pour arriver sur place. Entre-temps, ils obtiennent des remboursements massifs d'actes non réalisés. Des escrocs en général installés à l'étranger qui se servent de données de sécurité sécurité sociale piratée. Le général Montul, chargé de la lutte contre les fraudes, déplore même des escrocs qui ont fait des études supérieures, viennent de familles aimantes et qui choisissent délibérément de voler un outil de solidarité nationale.
Deux hommes, toujours en fuite, soupçonnés d'avoir abattu Éric Robic hier matin en pleine rue, tué par balle devant son domicile de Neuilly-sur-Seine. C'est près de Paris, un homme d'affaires sulfureux connu pour ses escroqueries est condamné, Maxime Clieruza, à de multiples reprises.
Oui, avec pas moins de 12 condamnations à son casier judiciaire sur les 30 dernières années. La plus retentissante d'entre elles, le meurtre de Lise Etouni en 2011 en plein cœur de Tel Aviv. La femme de 25 ans à l'époque a été renversée par Éric Robic qui a ensuite fui en France. Il avait écopé de 5 ans de prison ferme pour homicide involontaire aggravé. Plus de 10 ans plus tard, en 2024, c'est pour une vaste escroquerie à 1 million d'euros qu'il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. L'escroc achetait des voitures à l'aide de sociétés écrans faisant une centaine de victimes. C'est donc sur la piste du règlement de compte que les enquêteurs vont devoir travailler et sur une possible préméditation. Éric Robic a été assassiné hier matin à seulement une dizaine de mètres de son domicile.
Il est 7h06 sur RMC. Un autre club français est qualifié pour les demi-finales d'une Coupe d'Europe après le PSG en Ligue des Champions. Strasbourg atteint le dernier carré d'une Coupe d'Europe, la Conference League. C'est la première fois de son histoire. Les Alsaciens reviennent de loin. Battus la semaine dernière à Mayence, ils ont renversé les Allemands 4-0 hier soir à la Méno. La Méno qui se souviendra longtemps, Sébastien Ruffet, de cette soirée historique.
C'était un match pour l'histoire. Remonter 2 buts à une équipe allemande, le défi était déjà relevé, mais se qualifier en passant 4-0 à une équipe qui n'avait pris que 3 buts en 11 matchs européens cette saison, c'est une autre dimension. Des vestiaires, des cris s'élèvent, de la joie, des émotions. Samir El Mourabé, le gamin de Strasbourg, tente de rester lucide.
C'est un truc de malade là ce qui se passe. On est content, on est heureux. Ça me touche vraiment. Plus je viens d'ici, ça me fait vraiment plaisir. Je tiens vraiment à cette compétition. Autant faut faire la même chose en demi-finale et aller plus loin.
Tout était magique de la
Tout était magique, l'ambiance, tout. Merci tout le monde.
Et pour les supporters qui descendent des travées, c'était tout aussi incroyable.
Je l'avais dit, je le sentais, mais bon, on sait jamais, hein. Mais formidable.
Quelle soirée, on s'y attendait pas, mais quelle soirée.
On sait qu'avec ce stade qui est bouillant du début à la fin, on peut aller loin et. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à l'équipe parce que ce soir, comme disent, c'est formidable du début à la fin.
L'équipe de Gary O'Neill a mené le Racing pour la première fois en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Hier soir, le public n'avait plus qu'une chose à dire.
Et en demi-finale, les Alsaciens affronteront le Rayo Vallecano. Ce sera dans 2 semaines, match aller en Espagne. Et puis, je vous propose de danser, Apolline, avec l'événement dont tout le monde parle ce matin. Céline Dion,
Elle revient,
le tout dernier titre de la chanteuse écrit par Jean-Jacques Goldman, révélé cette nuit, prémisse d'un album à venir en un peu moins de 5 mois. Les concerts de la star en France à Paris, ce sera à l'automne prochain.
Et vous savez quoi, votre historien du matin, Arthur Chevalier, va s'intéresser à ce duo mythique entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Rendez-vous donc à 7h20. C'était le journal de Thibaut Texer.